Les cours du Collège de France, Peter Sloterdijk, Cher, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Mesdames, messieurs, bon après-midi, je suis très touché de vous revoir. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de passer tous les lundis après-midi ici. Dans ce cas-là, je serais un peu moins fier, mais néanmoins, comme hypothèse de travail, j'assume que vous êtes vraiment venu pour entendre ce que je vous aurai à dire dans l'heure suivante. Aujourd'hui, on n'aurait pas d'intervenant à côté de moi. On va partager le discours en deux parties. Après 45 minutes, on va faire une petite pause et la deuxième partie va suivre immédiatement. Comme ça, la nuit du break ne sera pas ne fera pas trop de dommages à nos motivations communes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur qu'on ne connaît pratiquement pas du tout en France. Mais pour vous soulager, j'ajoute qu'on ne le connaît en Allemagne non plus. Parce que c'est un émigré qui a quitté l'Allemagne dans l'année fatidique de 1933, déjà en automne. Il était professeur d'histoire, de droit à l'université de Dresde et il s'est rendu aux États-Unis où il s'est complètement américanisé. Et lorsqu'il voyageait après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, il portait un chapeau mexicain pour signaler qu'il n'était plus européen. Mais lui incarnait un peu de ce que je vous disais lors de notre deuxième réunion sur le transfert de l'Empire. Il s'est américanisé tout en restant européen, mais après le transfert de l'Empire de l'Europe historique à l'Europe nouvelle qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Et le livre dont je cite amplement aujourd'hui s'appelle « Out of Revolution ». C'est un titre un peu bizarre, même en anglais, ça ne sonne pas trop convaincant. Et c'est la raison pourquoi on n'a jamais essayé de le traduire en allemand. Peut-être les cinéastes parmi vous connaissent un film de Percy Adlon sous le titre « Out of Rosenheim ». Ça pourrait vous donner une idée de quoi il s'agit. Avoir une patrie derrière soi, être né quelque part et d'être out of Munich ou out of Rosenheim et ici out of revolution. Et avoir la révolution comme patrie, c'est une idée qui devrait intéresser un public français. Out of revolution, comment un historien allemand écrit leur autobiographie aux Européens. Le livre Europe, comment pouvons-nous nous assurer de sa lisibilité? De quelle manière nous persuadons-nous que le continent sans qualité, en dépit de son caractère évasif, ne manque pas tout à fait des facultés d'être reconnu, peut-être même d'être raconté. Où faudrait-il commencer pour saisir cet quasi-objet amorphe à la lumière de la représentabilité, que ce soit par une méthode d'éclaircissement qui apporte la lumière de l'extérieur ou par une fluorescence inhérente à l'objet lui-même. J'aimerais jouer au cours de l'heure qui suit le rôle de l'étrange étranger dans la nouvelle Le Livre de Sable de Jorge Luis Borges, Celui qui avait sonné à la porte du bibliophile de Buenos Aires et s'était présenté comme un vendeur de Bibles rares. Et ce que j'apporte avec moi dans ma valise, c'est le parfait entier livre de sable. Et si celui-ci exprimait l'impossibilité de constituer une histoire cohérente, il transmettrait eo ipso le message selon lequel le lecteur de cette œuvre diabolique ne peut s'y localiser nulle part. Et il n'y reconnaît pas non plus, à supposer qu'il exista un passage qui le concerne. Et il ne verrait donc pas non plus si ce passage a réellement quelque chose à lui dire. La lecture dans l'infini est l'impossibilité d'être touché par une histoire. Le marchand de Buenos Aires avait exprimé précisément ce dilemme. Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe quel point de l'espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n'importe quel point du temps. Le livre que je propose à la vente au public, même si ce n'est provisoirement que pour une première prise de connaissance, constitue la protestation la plus violente qu'on ait formulée dans une époque récente contre le délaiement de l'existence humaine dans l'infinité. Mieux, il déploie le plus haut degré d'insistance, pour ne pas parler de harcèlement, avec laquelle un livre puisse se communiquer à un lecteur. Il s'arroge le droit de revendiquer jusqu'à l'extrême la réceptivité, ou plus précisément la propension à la souffrance de celui qu'il recueille, bien au-delà de tout ce que les opéras de Wagner ou de Stockhausen exigent de leurs auditeurs. Je veux parler ici du volumineux ouvrage « Out of Revolution » de la plume de l'historien et théoricien du langage Eugen Rosenstock Hussey, Paris, paru en 1938 chez Whip and Stock à Eugene, Oregon, États-Unis, et pourvu de ce sous-titre un peu bizarre et même tapageur, Autobiography of Western Man. Quand on ouvre le livre, on est salué par ce slogan horacien, de te fabula narrator. C'est de toi que parle le récit. Notons en passant que Karl Marx utilisa aussi cette formule pour mettre en garde les lecteurs de son premier tome du Capital contre l'illusion de croire que tout ce dont on y traitait ne concernait que les Anglais. Alors que non, il concerne aussi les lecteurs du continent et les lecteurs allemands en particulier. De te fabula narrator. Autobiographie de l'homme occidental. La formule peut déconcerter à plus d'un titre. D'une part, l'expression « homme occidental » est devenue plus que problématique pour les oreilles actuelles. On ne trouverait guère de nos jours, ne fût-ce qu'un seul Européen, pour se ranger sans autre formalité dans un collectif de « hommes occidentaux ». Et pas seulement parce que les larges majorités sont actuellement dominées par des motivations anticollectivistes, même si les motifs identitaires sont très en vogue. On hésite aussi à donner du récit, du crédit à cette expression depuis que d'innombrables membres de la civilisation euro-américaine ont commencé à se contempler dans les miroirs de l'Est global, du Sud global et de l'indigénéité globale, jusqu'à en perdre toute espèce de goût pour l'affirmation de soi. Parler du genre l'autobiographie déconcerte encore plus. On le sait, l'une des découvertes de l'Antiquité occidentale est que les individus humains sont des êtres capables de produire des biographies et dignes d'en avoir une. les bioi paralleloi des grands Grecs et Romains que Plutarque rédige au deuxième siècle de notre ère documentent fort bien cet état de fait en produisant des conséquences durables. Mais dans la pratique culturelle de l'Europe est apparu à partir de la fin du Moyen Âge un effet que l'on pourrait appeler démocratisation de la biographie. Il n'est plus nécessaire désormais de limiter aux saints, aux princes, aux généraux et aux femmes rayonnantes la liste de celles et de ceux dont les biographies sont transmises à la mémoire de la postérité. Le tournant biographique a atteint un premier point de maturité au moment où l'humanisme du XVIe siècle a proclamé l'équivalence virtuelle de l'individualité et du récit biographique. L'anthropologie européenne des temps modernes se résumait à la supposition que l'homme n'était pas seulement l'être vivant dont l'existence mérite d'être donnée en représentation, mais aussi celui qu'il est en mesure de raconter lui-même son histoire. Et jusqu'à Wilhelm Dilthey, qui, par analogie aux efforts d'Immanuel Kant visant à expliquer la possibilité des sciences, qui voulait établir les fondements catégoriels des sciences humaines, la compétence autobiographique de l'individu européen est restée le paradigme sur lequel s'est orientée d'une manière générale la possibilité de la science historique. Sous le noyau autobiographique, toute historiographie de quelque ampleur reste ou bien un simple recueil d'exemplaires tirés de la vie d'autres êtres humains ayant une vague valeur existentielle, ou bien littéralement une no man's story, une histoire de personne. Une histoire de personne restituant la succession des situations passées sans faire référence aux individus concrets. Mais comme l'histoire d'une nation, d'une confession ou d'une institution recouvre plusieurs générations et dépasse ainsi largement le vécu de l'individuel tel qu'il se conçoit lui-même, une histoire arrivée à la maturité doit montrer comment les sources, les documents premiers, les témoignages scripturaux et matériels de ce qui a été, peuvent être recomposés en un récit de telle sorte qu'ils ne perdent pas totalement le lien avec le vécu. À partir du XIXe siècle, l'âge d'or de l'historicisme, cela se produisait le plus souvent sous la forme où les individus se reconnaissaient comme membres de leurs nations respectives. Et la nationalisation du moi leur permettrait d'acquérir la faculté de participer aux destinées antérieures de leur peuple, comme si les drames passés de celui-ci les concernaient toujours, cum grano salis, de manière existentielle. La tendance de l'historicisme et de son courant que Nietzsche qualifiait d'antiquarien voulait cependant que l'on efface le noyau autobiographique des grands récits, si bien que les individus ne pouvaient qu'avoir de plus en plus l'impression d'être des déchets rejetés par la mer dans le no man's stories. Ces indications devraient suffire à expliquer l'anormalité de l'entreprise de Rostock-Hussy. L'auteur aimerait très sérieusement concevoir un soi capable de raconter et qui présenterait l'histoire européenne depuis le XIe siècle jusqu'à l'actualité de 1938 comme le procès de sa propre vie. Et pour illustrer le caractère inhabituel de ce projet, il faudrait se figurer que Augustin, Aurelius Augustinus, le maître de l'autobiographie chrétienne, n'ait pas raconté ses confessions, achevées en l'an 401, comme l'histoire de ses propres côtés douteux, de ses conversions, de ses errances, mais les ait conçues comme l'histoire authentique du christianisme, de ses débuts jusqu'à sa propre personne. Il aurait présenté comme l'évolution quadriséculaire d'une secte messianique issue de la province palestinienne et passée par les différents paliers de l'Église opprimée, de l'Église combattante, de l'Église triomphante, puis franchissant les crises hérétiques jusqu'au virage constantinien, le premier César chrétien et l'élévation du christianisme au rang de religion de l'Empire sous l'empereur Théodose en 393. Il n'aurait pu le faire qu'en se fondant sur le présupposé qu'on lui avait accordé un accès privilégié au scénario de Dieu, dans lequel il était prévu qu'un minuscule groupe de Nazaréens des années 30 et 40 du premier siècle était appelé à conquérir le cercle du monde, le Orbis Mundi, c'est-à-dire l'Empire romain, et de surcroît qu'il était, Augustin, personnellement destiné à décrire toutes les catastrophes extérieures et les crises intérieures subies au fil de 350 ans par l'Église des premiers temps, comme s'il les avait vécues lui-même, comme s'il en avait directement souffert et comme s'il était l'héritier désigné et plénipotentiaire de tous les points de vue clarifiés et figés sous forme de dogmes au cours de cette époque. On le sait, la vision qu'il eut à Ostia près de Rome, constitue le pivot de la conversion d'Augustin. Pour ce qui concerne Rosenstock-Huessy, il n'a pas laissé ses lecteurs dans l'ignorance quant au lieu ou au moment où, dans son cas, a débuté la conversion. Il revendique personnellement une vision qu'il a eue à un moment donné au cours des orages d'acier de la bataille de Verdun en 1916. Saisi par peur constante de mourir, il a eu la révélation que cette guerre européenne, devenue une véritable guerre mondiale, allait forcément entraîner un déracinement révolutionnaire hors de toute vie antérieure. Plus encore, qu'aucun retour à la civilisation ne serait plus possible tant qu'on n'aurait pas tiré toutes les conséquences de cette expérience incommensurable pour la vie d'après. En toute logique, la question sur laquelle repose le livre énorme dans tous les sens du terme, de Rosenstock-Huessy est la suivante. Comment est-il possible de revenir de la guerre mondiale? Ou de manière un peu plus formelle, comment faudrait-il définir les conditions de possibilité de la démobilisation? Rosenstock-Huessy partage le pathos de cette question avec de nombreux contemporains auxquels l'interprétation de la catastrophe actuelle de l'humanité brûlait sur les doigts. Il le partage avec Karl Barth, dont la nouvelle interprétation de l'épître aux Romains de Paul est devenue une sensation théologique en 1922. Il le partage avec Hugo Ball, l'instigateur du dadaïsme zurichois, chez qui l'on a assisté, après la fin de la guerre, à un tournant religieux, un passage entre la destruction de tous les signes donnant illusion de sens et le retour au mode de pensée du premier christianisme. Il le partage avec Ernst Bloch, qui annonçait avec les deux versions de son œuvre précoce, L'esprit de l'utopie, en 1918 et 1923, une gnose révolutionnaire est issue de l'esprit de l'anticipation d'une vie meilleure. Il le partage avec Paul Valéry, qui a exprimé dans son essai La crise de l'esprit de 1919 le bouleversement que lui causait la fragilité, la preuve de la fragilité des plus hautes réalisations culturelles. Il le partage avec Lénine, qui, faisant preuve d'un cynisme grandiose, a compris que l'effondrement du tsarisme en Russie était une singulière opportunité pour la révolution bolchevique. Il le partage avec Martin Heidegger, qui, avec son analytique de la finitude ou son interprétation du Dasein comme être jeté dans le monde et comme être à la mort, attachant de cette pensée, de cette façon la pensée philosophique elle-même à la mobilisation. Il le partage avec Benito Mussolini, qui rejetait le retour à la paix civile lorsqu'il pontifiait en ces termes « Le fascisme, c'est l'horreur de la vie commode ». Il le partage avec Adolf Hitler, qui résumait en ces mots son refus d'accepter la défaite dans la phrase la plus connue du « Mein Kampf ». Je décidais dorénavant de devenir homme politique. Il le partage avec le romancier Hermann Broch, qui, dans sa trilogie Les Somnambules, fait dire par un blessé à l'infirmière de l'hôpital de campagne, aucun d'entre nous ne rentrera plus vraiment à la maison. Et il le partage avant tout avec Franz Rosenzweig, son meilleur ami, qui, dans son œuvre L'étoile de la rédemption, parue en 1921, avait accompli un mouvement qui l'éloignait de l'activité philosophique théorique pour ne plus accorder de valeur qu'à une nouvelle pensée, une réflexion sur les conditions de l'existence humaine dans la communauté totalement mobilisée, dééternalisée, totalement exposée à la temporalisée, irréversible. Rosenstock-Huss emprunte chez son ami Rosenzweig le terme extraordinaire Erinnerungen eines Entewigten, mémoire d'un être humain dééternisé. Tout ça sont des formules qui sont forgées autour de l'an 1920. Donc tout ça sonne comme si c'était formulé hier. Mais nous sommes séparés d'un siècle entier et on n'a jamais quitté la situation de l'après-guerre. Il faut considérer l'autobiographie de l'homme occidental de Rosenstock-Huss comme un document sur le retour de la guerre mondiale retardée. Alors que les combattants de la tendance fasciste se vouèrent, lorsqu'ils revinrent au pays, au prolongement du combat par des moyens analogues, ce qui les poussa à rejeter d'emblée l'idée de la démobilisation. Alors, lotta continua a été donc le grand motto des années 20. Rosenstock-Huss conçut le projet de rester d'une autre manière, l'arme au poing, donc mobilisée au poing sur le plan intellectuel, jusqu'à ce que toute la vérité sur la catastrophe de la civilisation européenne ait été exprimée et qu'une nouvelle mission ait été fixée pour le temps qui suivit. Il faudrait attendre la publication de son Out of Revolution et de sa version antérieure parue aux éditions Diederichs en 1931 du Europäischen Revolutionen, Volkscharaktere und Staatenbildung, c'est-à-dire les révolutions européennes, caractère ethnique et constitution d'État de 1931, pour que l'auteur considère que l'heure était venue de faire valoir son droit à la démobilisation. On peut aller jusqu'à affirmer que le livre dans lequel nous posons ici un marque-page était en réalité une lettre envoyée du front et qui devait être distribuée 20 ans après la fin de la guerre à un public désemparé, vivant sur le sol américain, non pas à cause d'une erreur de la poste, mais parce que l'auteur avait eu besoin d'une décennie entière et même plus pour mettre en ordre ses addendas, ses digressions et ses post-scriptums. Nous n'avons pas encore clarifié le motif qui conféra à ce livre son pathos invasif. Qu'est-ce qui permet à l'auteur de s'arroger le droit de raconter une histoire longue de 900 ans comme s'il prenait la place d'un sujet qui embrasse la somme de ses chapitres à la manière d'un ensemble vécu personnellement d'un bout à l'autre. Et comme le souligne l'auteur lui-même, il s'agit d'une séquence qui ne recouvre pas moins d'environ 27 générations. À supposer qu'un individu vivant longtemps détienne la faculté d'intégrer avec une certaine lucidité trois générations dans son cercle d'expérience et de vécu, les 9/10 resteraient tout de même, pour ce qui concerne cette macro-autobiographe, en dehors du temps de sa propre existence. Et l'énigme se résout dès que nous examinons de plus près l'opération fondamentale à laquelle se livre le procédé narratif de Rostock ici. On peut le décrypter à l'aide de la maxime qui a aussi été activée ici, Dete fabula narratur. L'ancien soldat de Verdun se référait là à une expérience que l'on ne peut décrire autrement que comme un saut du tigre visant à atteindre la position d'auteur. Une position d'auteur qui vaut la position d'un oracle. En tant que médium de son expérience extatique, il était en droit de garantir que face à la présence constante de la mort, toutes les mascarades au cours desquelles des individus ont coutume de se déguiser en interprètes de rôles sociaux, avaient pris fin pour ce qui le concerne personnellement. Il disait avoir été déraciné d'un seul coup de tout ce qui, dans la vie bourgeoise, était masque, prétention, satiété et vanité. L'homme démasqué, jusqu'il n'en reste plus que son pur caractère mortel, est le seul en qui s'ouvre la possibilité de poser la question essentielle: qu'est-ce qui, au juste et au bout de compte, constitue la vie? Et la réponse était la suivante: c'est le fait d'être saisi par une idée pour laquelle l'individu est prêt à s'engager en employant toute son existence. Et à cette réponse se rattache la seconde question. À la lumière de la clarté implacable de cette expérience, comment doit-on prolonger la vie au cas où la mise à l'épreuve par l'extrême d'une journée aurait un jour cessé? Et avant toute réponse concrète, un seul postulat se révèle de lui-même comme évident. Après la condensation à l'existentialité due, la vie devrait être une vie nouvelle. Et à cette réduction totale, Rostock Hussy donne le nom d'expérience de la révolution. Après 1918, aucune vie authentique n'est plus possible si elle ne se situe pas sous le signe de la révolution. En se fondant sur ces évidences acquises de bonne heure, Rosenstock-Fuss a étudié de plus près, après la guerre de l'histoire européenne, il a étudié l'histoire européenne comme une séquence de moments dans lesquels de véritables révolutionnaires, comparables aux individus de l'histoire du monde chez Hegel, se présentaient devant leur prochain dans une authenticité inconditionnelle et une imperturbable disposition à affronter la mort pour se rebeller contre le caractère insupportable des situations confuses et iniques au sein de l'État et de la société, sans tenir compte du fait que, à chaque époque et dans la plupart des régions du monde, la grande majorité des humains ont tendance à accepter tout de même l'insupportable d'une manière ou d'une autre sur la base de l'inertie, de l'absence de courage et de l'immersion dans une quotidienneté pernicieuse. La liste des révolutionnaires exemplaires fournie par Rosenstock-Huss est brève, mais sans équivoque. Elle englobe les noms de Grégoire VII, Luther, Cromwell, Robespierre, Lénine. Le premier nom incarne ce que l'auteur appelle la révolution papale du XIe siècle. Et ce tournant n'était pas seulement une réinterprétation radicale de ce qu'on appelle la querelle d'investiture entre la papauté et l'Empire. Elle ouvre la voie à une véritable découverte lourde de conséquences de longue portée pour la compréhension de l'Église et de la structure étatique en Europe. Et les autres noms renvoient aux césures historiques que l'on désigne communément sous le nom de réforme, chez Rosenstock-Huss, la révolution allemande, ainsi qu'à la Glorious Revolution en Angleterre, qui mit un terme aux années de la dictature puritaine et qui lui mieux valut appeler la Glorious Restoration, puis la Révolution française et en dernier lieu la Révolution russe. Ces deux dernières sont encore aussi présentes sous leur nom officiel dans la conscience publique. En un mot, l'expression « out of revolution » équivaut à cet appel « homme de l'Occident, écoute », un homme qui a été éveillé devant Verdun et qui revient de plus extrême, te parle. Cette lettre tardive en provenance du front s'adresse avant tout au christianisme décadent de l'Europe et à ses épigones athées, y compris le rejeton athée. Si la mention décadente n'était guère attribuée aux institutions religieuses de cette époque, c'est qu'au cours de la Grande Guerre, ceux que l'on avait pu inciter à s'entretuer par millions, presque sans aucune contradiction suffisamment vive, étaient essentiellement des baptisés de plusieurs nations formellement chrétiennes, excepté la France, en régime de laïcité depuis 1905. Et pour le jeune Rosenstock, qui ajouta en 1925 à son patronyme celui de son épouse Margit Huss, une femme de Suisse, qui, issue d'une famille juive, était entrée à l'âge de 17 ans dans l'église évangélique luthérienne et prenait sa conversion très au sérieux, cette réalité a dû faire l'effet d'un désastre de l'histoire religieuse, pire, d'une banqueroute manifeste de la civilisation christianisée. Quand on présente les révolutions comme des professions de foi, on confesse aussi leurs inévitables méfaits. L'auteur était conscient qu'en règle générale, seule la violence guerrière est en mesure de tracer de nouvelles frontières. Et là où l'heure de ce nouveau tracé est venue, leur violence révolutionnaire apparaît légitime. Rosa Chocruz, c'est naturellement, en tant qu'individu, il ne pouvait pas être l'auteur légitime d'une autobiographie européenne, mais il se sentait appelé à servir en tant que médium le véritable rédacteur du livre inspiré. Ce seul auteur envisageable était l'esprit de la Révolution, pour peu qu'on puisse postuler son existence. Rosa Chocruz ne dissimulait pas à ses lecteurs l'identité chrétienne de cet esprit-là. Et il caractérisait l'atmosphère de l'après-guerre en expliquant qu'ouverte à tous les extrémismes, qu'elle favorisait l'équivalence anarchique de l'esprit du temps avec l'esprit du monde. Et il n'interdisait pas celle et l'équivalence de l'esprit de la Révolution avec le Saint-Esprit. Et le lecteur doit prendre ici connaissance de ce que le Saint-Esprit peut être tout sauf pacifiste. La guerre avait révélé dans quelle mesure les nationalités avaient mis l'universalisme chrétien en pièces. Partout, ou presque, les églises étaient devenues les conciergeries des États fondus sur la puissance. Max Weber avait à juste titre parlé de la domination universelle de la non-fraternité, die Weltherrschaft der Unbrüderlichkeit, contre laquelle le message évangélique était tout aussi peu efficace dans le monde moderne que dans l'ère des petits princes médiévaux, des chevaliers brigands et des warlords du XVIe siècle. Pour ne pas oublier, à partir du Xe siècle, on avait laborieusement poussé leurs prédécesseurs à renoncer au nom de Dieu, à se massacrer mutuellement, se massacrer mutuellement pendant les trois jours saints de la semaine, du vendredi au dimanche. C'est donc une sorte d'armistice connu sous le nom le cessez-feu de Dieu, le Treuga Dei. On tue tous les jours de la semaine, sauf vendredi, samedi et dimanche. Donc c'est le début du pacifisme chrétien en Europe. Et à l'issue de la guerre mondiale, on crut qu'était venu un moment exigeant que l'on assiste de nouveau à l'esprit libre dans ses douleurs, dans un pays, dans un paysage de confusion totale, et bien qu'il n'ait en aucun cas pu être question d'une paix de Dieu, compte tenu des blocs de pouvoir qui ne se formaient et de leur ordre de bataille qui se mettait en place. Et plaide pour la radicalité spirituelle de Rosa Chocruz, pour ne pas parler d'absence de scrupules, le fait qu'il ait, conformément à son époque, voulu reconnaître aussi la tempête déclenchée par le Saint-Esprit dans cette révolution russe qui est encore actuelle à l'époque, bien que quelques questions concernant le caractère véritablement inspiré de ce qui se déroulait en URSS, se soit forcément posé dès 1930. Et plus encore en cette année de terreur que fut 1938. En signant le traité de Brest-Litovsk en mars 1918, Lénine avait tout de même concédé la défaite militaire et renoncer à un nombre de non négligeables territoires situés à l'ouest de la Russie pour conquérir le unum necessarium, l'un qui fait besoin, c'est-à-dire la possibilité d'une rénovation socialiste du monde. Et Rosa Chocruz reconnaît au chef des bolchevistes le fait d'avoir suivi une véritable vocation et ne pas s'être contenté de défouler l'obsession que lui avait inculquée une théorie douteuse. Et au plus tard, après la mort de Lénine et l'ascension de Staline, on avait plus d'une raison de douter de cette téméraire herméneutique chrétienne de la Révolution. Mais tout autant de la doctrine selon laquelle les impératifs, malgré tout profondément religieux, se réalisaient dans l'Est de l'Europe sous des prémices profanes et porteuses de violence. Mais après le procès de Moscou, de 1936 à 1938, il devait être devenu évident que la dictature du prolétariat était plus un leurre diabolique fait pour séduire des intellectuels et des orateurs s'exprimant au nom des classes dépourvues de parole qu'une figure rhétorique du Saint-Esprit qui se serait magistralement entendue à servir ses buts comme sous un pseudonyme athée. Mais avec cette allusion à l'idée du pseudonyme nécessaire des impulsions chrétiennes, nous touchons au centre logique de la pensée de Rosenstock Huss à cette époque et par la suite, pensée dans laquelle la langue du genre humain et la coexistence d'êtres humains sous la pression d'une réalité pluridimensionnelle ont pris une place centrale. Ce fut son intuition la plus importante sur ce qui signifierait à l'avenir penser la vérité dans des conditions du plurilinguisme. Et ce qu'on appelle la vérité, avant tout en matière religieuse, est depuis toujours le produit de la lutte entre le traduisible et l'intraduisible. Et l'esprit fait ici office à la fois de traducteur et de critique, protégeant l'intraduisible contre l'inévitable falsification produite par la traduction. Qu'il faille traduire est la condition sine qua non du monde historique. Mieux, la vérité elle-même, et la vérité chrétienne en premier lieu, paraît d'emblée placée sous l'obligation de se laisser falsifier afin d'être diffusée comme le veut sa nature expansive. Et ce qu'on a appelé le miracle de la Pentecôte ne se réfère pas seulement à l'expérience d'un enthousiasme collectif situé au-delà des langues, il implique en même temps une impulsion dans le sens d'une imprécision transfrontalière. Il a depuis le début constitué un protestantisme sans frontières portant des oripeaux catholiques. Et de fait, le processus de la pseudonymisation, le processus de la pseudonymisation est d'emblée identique au christianisme tel quel. Il a commencé au moment où le terme hébreu « Mashiach » en araméen « Misha », translittéré en grec comme « Messias » a été traduit par l'expression « Christos », ce qui explique que les chrétiens sont jusqu'à nos jours les gens qui ne prononcent pas correctement le nom de leur rédempteur. Et le processus s'est poursuivi avec le fait que les épîtres de Paul et les quatre évangiles, les évangiles canoniques, existent exclusivement en grec, si bien que pratiquement aucun mot original du prédicateur Jésus qui s'exprimait en araméen n'a pu percer le voile de l'hellénopholie. Peut-être à l'exception du fameux mot prononcé par Jésus à l'adresse de la jeune fille paralysée, hein, qui est aussi a été transmis en araméen, Talita Koumé, prends ton lit et marche. C'est d'ailleurs une institution judaïque pour supporter des jeunes filles palestiniennes qui ont perdu leurs parents. Talit Akoumi, ça existe jusqu'à nos jours. Un collègue à Berlin qui avait reçu le prix Meister Eckhart, doté de 50 000 euros a fait une donation de son prix à cette tradition. Je dis ça pour mentionner la seule expression, la seule exception de cette règle, pourtant très sévère, qu'on n'entend jamais la prononciation araméenne du message du Christ, qui devrait, comme je disais, qui devrait s'appeler en hébreu le Mashiach. Donc, alors qu'aucun mot du prédicateur Jésus qui s'exprimait en araméen n'a pu percer le voile de l'hellénophilie. Et avec la latinisation du christianisme, s'est rattaché un deuxième palier de distanciation par traduction. Et c'est finalement à la fin du XVe siècle qu'ont suivi les popularisations en langue vulgaire, comme la Bible de Wycliffe en 1395, la Bible de Olmütz en tchèque ancien de 1417, la Bible Mentelin imprimée en allemand en 1466, les Bibles de Luther en 1522 et 1534, la Bible française de Neuchâtel en 1335 et son optimisation par la Bible de Genève en 1550, qui fut la source d'inspiration pour les Huguenots. Aucune de ces traductions ne serait concevable sans la foi en la possibilité d'une translatio veritatis. Et le pathos protestant s'est condensé dans le slogan « sola scriptura », seulement par l'écriture. Cela impliquait toujours aussi « sola translatione ». Mais au palier suivant, au seuil des Lumières, lorsqu'il fallut passer des troisièmes traductions au quatrième, Rosenstock-Huss y comprit la nécessité de mettre entre parenthèses tout le système de la théologie traditionnelle et de la religion, de la vie dans les ordres, si l'on voulait que le principe protestant reste valide, en contournant 1500 ans d'années d'histoire de l'Église. Et contrairement à Luther, qui pratiqua la rétro-traduction en traduisant en allemand le Nouveau Testament à partir du grec et l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, Rosenstock-Huss tenta, lui, en philologue illuminé, d'expliquer comment et pourquoi les juristes britanniques du XVIIe siècle, les intellectuels français des Lumières du XVIIIe siècle, les idéalistes allemands du XIXe siècle et les anarchistes russes et pour finir les bolcheviques du XXe siècle avaient transposé des éléments des évangiles en langue profane, fréquemment en se détournant des textes fondateurs et en brandissant la bannière de l'athéisme. Alors, Le christianisme est placé pour Rosenstock-Huss et dorénavant sous la loi de la traduction antérograde, c'est-à-dire elle exigeait une médiation avec les idiomes profanes, scientifiques et esthétiques d'une époque qui n'avait plus qu'un point commun avec l'antiquité religieuse, le fait que face aux situations les plus extrêmes, les individus sont en mesure de se rappeler quelque chose d'universel qui mérite qu'on mette sa propre vie en jeu. Et cette clause permettait à Rosenstock-Huss de se protéger contre la tentation de transformer le christianisme transposable en une sorte de cachet effervescent spirituel qui se dissoudrait dans une éthique séculaire du monde, une Weltethik comme celle de Hans Küng, où disparaît dans le formalisme d'une doctrine de la compétence comme négatrice à la Habermas. La traduction antérograde la plus réussie se présenta sous la forme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, telle qu'elle fut promulguée le 26 août 1989 par l'Assemblée nationale et acceptée par Louis XVI. Dès le début, aucun doute ne fut possible quant à son caractère religieux. Les premières versions imprimées de cette déclaration solennelle montrent les 17 articles et leur préambule repartis sur deux tables de loi par analogie avec les 10 commandements. Et on pourrait croire que les députés de Paris se sont donné la peine de grimper sur le mont Sinaï pour y faire graver les articles dans l'argile par le doigt de Dieu et de redescendre ensuite dans la plaine parisienne où ils furent promulgués après de nombreuses demandes de modification. Et au-dessus des deux tables plane au-dessus des deux tables plane l'œil de Dieu, celui qui voit tout, inscrit dans un triangle équilatéral dont personne à l'époque ne pouvait ignorer la signification. Et si Rosenstock-Huessy a émis la prétention de s'engager dans une histoire des idées non idéalistes, c'est parce qu'il avait réussi à dépasser la figure hegélienne de la ruse de la raison au moyen de celle de la ruse du Saint-Esprit, ou pour mieux dire, à prouver que le concept de l'idée processuelle hegélien ne signifiait de toute façon rien d'autre que le produit d'une neutralisation philosophique de la troisième personne de la Trinité dans sa pérégrination à travers le temps. Je pense qu'ici, on pourrait faire une petite pause pour se reposer. On recommence. Rosenstock-Huessy, persuadé que l'histoire humaine en général et l'histoire européenne du dernier millénaire en particulier ne peuvent être comprises qu'à partir du mouvement des passions, des professions de foi et des inspirations. Il se retrouve dans la situation embarrassante de devoir pratiquer la distinction entre les enthousiasmes sans pouvoir présenter des critères convaincants. Il faut non seulement distinguer les esprits, il faut pratiquer la distinction des enthousiasmes sans pouvoir présenter des critères convaincants, sauf à pouvoir admettre que l'esprit, puisqu'il avait de nouveau envie de souffler, privilégiait les vents d'un universalisme abstrait. Rosenstock-Huessy partage avec un nombre non négligeable d'historiens de la révolution et de théoriciens des médias, par exemple avec Régis Debray, ce dilemme presque sans issue. Il n'est pas toujours facile de distinguer les nobles enthousiasmes et les éruptions de la démence collective. Et de fait, l'historien qui voudrait suivre le chemin tracé par les impulsions depuis la Bastille jusqu'à la prise du palais d'hiver et aux masses en liesse de la Révolution nationale allemande de 1933, serait contraint par son sujet même à faire le tri entre les enthousiastes, non pas en tant que prophète rétroactif, comme l'a jadis relevé Friedrich Schlegel avec esprit, le rückwärtsgewandte prophète, mais comme exorciste agissant à rebours, une fonction mieux connue au XXe siècle sous l'intitulé de critique de l'idéologie. Rosenstock-Huessy a choisi de ne pas attendre pour observer l'esprit de leur vision le moment où, lors des entrées en scène d'après 1989, les acteurs même l'avaient déjà efficacement théâtralisé. Le coup de déclin de l'auteur, auquel on ne pouvait guère s'attendre, s'exprima dans la thèse selon laquelle, à partir du Moyen-Âge tardif, le vent des révolutions. Il me manque une page, une seconde. Le vent des révolutions s'est mis à souffler dans les nations, jouant un rôle historique réel de l'Italie à l'Allemagne jusqu'à l'Angleterre et la France, pour finir par assurer aussi en Russie le renversement de tous les rapports existants. Et pour Rosenstock-Huessy, la chaîne des révolutions est d'une réalité quasi sacramentale, mieux, une séquence nécessaire d'avancer vers une liberté généralisée. Tous les Européens sont ses héritiers, même si c'est aussi en règle générale d'une manière plutôt passive et dénuée de compréhension des sources historiques et des situations actuelles. Chaque individu vivant sous ses longitudes et ses latitudes devrait enfin comprendre que lorsqu'il affirme être libre et détenir des droits inaliénables, il peut uniquement le faire parce que, à l'instar de ses concitoyens, il a été baptisé à la fontaine de la Révolution, même s'il est aussi vrai que la grande majorité des Européens ne sont aujourd'hui, et cela vaut pour 1938 comme pour 2024, ils ne sont que des révolutionnaires par certificat de baptême et ne se préoccupant pas de ce qu'ils doivent aux combats et souffrances des générations antérieures. Nous tous, en tant qu'Européens, dit Rosenstock-Huessy, nous présentons le même pedigree of revolutions dans nos actes de naissance mentaux. Nous sommes des cousins et des cousines, parents des héritiers des révolutions survenues dans les autres pays. Il est vrai que chaque peuple ne fait qu'une seule révolution et qu'il est durablement marqué par ses résultats. Mais chaque révolution ultérieure est contaminée par le pays de la révolution ancienne. Les révolutions ultérieures, quant à elles, portent leur lumière sur les bouleversements passés. Fait caractéristique, les pays qui ont vécu une révolution antérieure sont moins perméables aux impulsions des suivantes. On le voit avec une singulière clarté en étudiant le cas de l'Angleterre. Sa phase régicide remontait déjà à 150 ans, au moment où Louis XVI terminait sous la guillotine. Et l'île britannique resta largement immunisée contre les idées de 1989, et surtout contre celle de 1793, mais elle en avait anticipé les éléments importants dans ses concepts de libéralité. Et avec cette restriction soulignée par Edmund Burke que les habitants de l'Angleterre ne songeaient pas à réclamer leurs droits en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant que descendant de Adam, mais en tant qu'Anglais. Et on discerne aussi la matière dont se prolonge l'héritage des expériences révolutionnaires antérieures, au fait que l'Allemagne est la mère de cette réforme qui fait office de révolution allemande, chez Rosenkreuz, prit certes une part active dans les événements qui se produisaient en France, mais ne se laissa pas emporter par le courant du républicanisme. Et dans le cas allemand, s'ajouta la complication que non seulement les informations sur la terreur parisienne, mais aussi et plus encore les campagnes militaires de Napoléon laissèrent à d'innombrables contemporains de profondes allergies aux influences venant d'outre-Rhin. Sur l'arbre généalogique des révolutions, la révolution russe est la seule à avoir eu clairement conscience qu'elle descendait de la précédente, la révolution française. Elle s'est placée explicitement dans sa succession et a voulu parachever ce qui, en France, était resté seulement à l'état d'esquisse. Toute sa nature semblait exprimer l'éveil d'un sens de l'époque pour ce que tous les bouleversements politiques antérieurs avaient d'insuffisant. Les combats du passé avaient certes indubitablement obtenu des avancées sur le camp des libertés religieuses et bourgeoises, mais ils avaient reculé devant la réalisation matérielle du principe d'égalité. Mais Marx n'avait-il pas déjà expliqué que le socialisme était la déclaration de la révolution permanente? Le rattachement de la révolution russe à la révolution française se fit dans la mesure où Lénine tira la leçon de l'échec de la terreur jacobine. Lorsque, à l'été 1794, quelques parlementaires modérés, on les nomma ultérieurement les hommes du Thermidor, se débarrassèrent de Robespierre et mirent un terme au régime de la terreur, ils ne purent le tenter et le réussir que parce qu'il restait encore quelques opposants qui n'avaient pas cédé à l'élimination par les furies de la morale politisée ou qui voulaient la devancer. Pour Lénine, il était clair qu'il n'y aurait plus de personnages de ce genre après la révolution bolchevique. Il s'était juré déjà en hiver 1917 qu'en Russie, il n'y aurait jamais un Thermidor. Pour Lénine, il était clair qu'il n'y aurait plus de personnages de ce genre après la révolution bolchevique. La Tchèque, la police secrète fondée dès le mois de décembre 1917, devait faire en sorte que l'égalité de tous devant la terreur soit réalisée comme du jour au lendemain. Et le décret sur la terreur rouge signé par Lénine en septembre 1918 présenter sur ce point l'avantage de la clarté à l'égalité très rapidement obtenue de tous face à l'accusation mortelle de la trahison de classe. On ajouta sous Staline l'égalité de tous devant le plan quinquennal. Elle entraîna la séparation de la société russe et de ses satellites en camarades fonctionnant sans friction d'un côté et en saboteur de l'autre. C'est dans son rapprochement avec l'utopie de l'absence de friction que la figure de Homo Sovieticus prit ses contours et que cette interdiction de friction se soit aussi transmise à des intellectuels de l'Occident constitue un sombre chapitre dans l'histoire des idées en Europe qui a couru jusqu'au début des années 1970. En 1738, Rosicrucius était manifestement déjà un peu moins sûr de son interprétation sacralisée de la Révolution russe que dans son esquisse de 1931. Il put tout de même plonger ses lecteurs dans l'étonnement en développant ses thèses inhabituelles. Il posa le diagnostic selon lequel les jeunes Russes révolutionnaires de la fin du XIXe siècle étaient au fond des Européens déçus. Ils avaient compris, selon lui, que l'Occident serait toujours en avance sur eux, sauf sur un élément, la propension à aller jusqu'au point le plus extrême du combat contre l'existant. Ils parviendraient au sommet grâce à une qualité dont les Occidentaux ne connaissent jusqu'ici que le nom, mais pas le fond, grâce à une radicalité capable à s'intensifier pour aller jusqu'à l'implacabilité. En 1938, aussi, Rosicrucius resta imperturbable sur son idée que les jeunes révolutionnaires qui préparèrent à partir de la fin du XIXe siècle les événements de 1917 avaient été, jusque dans le rôle de nihiliste avoué, les martyrs authentiques d'une foi anonyme, les activistes du sacrifice de soi, et ce, à un niveau que même les jésuites et les trappistes n'avaient guère atteint dans leur meilleure époque. Pour vérifier ces constats, il suffit de relire la condition humaine d'André Malraux, surtout la description des personnages bolcheviques qui prenaient parti à la révolution de Shanghai. Ce sont des véritables martyrs de l'athéisme d'une qualité pratiquement métaphysique. Il n'est pas difficile d'extraire de la biographie de Lénine la légende d'un martyr activiste. Mais selon l'interprétation qu'en fait Rosicrucius, l'histoire de la Révolution russe s'intègre jusqu'en 1938 au schéma d'une téléologie spirituelle. Même les moins libres de tous les Européens devaient, au bout du compte, avoir leur part des bénédictions de l'histoire ouest-européenne de la liberté, même au prix d'un asservissement encore plus profond que l'on tentait de justifier en voulant le considérer comme provisoire. Qu'était la Russie de 1917 sinon un cadavre qu'il fallait électrifier? Expression de Rosicrucius. Et quand l'esprit souffle où il veut, n'importe quel pseudonyme lui convient, fût-ce Piatiletka. Vous comprenez? C'est le plan quinquennal, Piatiletka. D'ailleurs, c'est un nom que des parents russes donnaient à leurs enfants dans les années 30. Où ils appelaient leur fils Octobre. C'était aussi... Mais l'esprit du baptême survit. Le texte est l'origine chrétienne. Et on reste sur les traces de l'orthodoxie éternelle. Rosicrucius n'avait encore rien entendu ou rien voulu entendre à propos des camps d'esclaves créés par Trotsky après 1922, ni du goulag fondé en 1930. Le regard sans a priori que Rosicrucius porte sur les événements survenus en Russie dans ses livres de 1931 et 1938 reflète la volonté qu'avaient les intellectuels européens de ces années-là de conserver aussi près d'eux que possible une Russie considérée comme le membre retardataire de la famille occidentale des peuples et des cultures, en dépit des forces de fuite qui allaient dans le sens du barbare, de l'asiatique, de l'extra-humain ou de l'inhumain. Et quand Rosenstock Huessy a intégré prématurément la révolution russe dans son histoire intellectuelle des départs révolutionnaires, il a succombé aux suggestions de la relation franco-russe entretenue par l'école marxiste. Ceux qui plaidaient en leur faveur voulaient rendre crédibles aux yeux du monde qui les entourait avant 1914 et plus encore après l'idée que la flamme de 1989 et 1793 avait été transmise par les étapes de 1830, 1848, 1870 et 1905 aux acteurs de 1917. Et Ernst Bloch n'avait-il pas lui aussi affirmé dans un moment de naïveté rétive « Ubi Lenin, ibi patria ». Mais avec les définitions de la révolution russe et de la révolution italienne, ou plus précisément de la révolution guelfe papale, on peut poser les marques au point angulaire extrême dans l'autobiographie de l'homme occidental. Mais le vaste bloc central est formé par les trois événements à travers lesquels l'Allemagne au XVIe siècle, l'Angleterre au XVIIe siècle et la France au XVIIIe siècle se sont intégrés au patrimoine culturel mondial de la Révolution. Dans des chapitres très détaillés et recelant d'amples connaissances, Rosenstock Huessy corrige l'idée courante selon laquelle ce sont les peuples qui se sont qualifiés comme sujets des révolutions sur la base de leur insurrection contre les dominants. Ce ne sont jamais, au contraire, que de petits groupes d'acteurs fortement motivés qui, en menant leurs actions quand le moment est venu, osent le renversement et modifient avec des effets durables le caractère de leur nation. Les peuples sont les résultats de leur révolution, mais non leurs auteurs. Et dans le cas de la révolution allemande, ce sont les princes des pays les plus petits et plus grands. Leur nombre était d'environ 300, dont au début, une nette majorité reprit à son compte les impulsions anti-romaines et anti-centralistes de la doctrine luthérienne. Et ils furent soutenus par leurs docteurs réformés, auxquels ils durent emprunter leur faculté de juger théologique pour pouvoir exercer le jus reformandi dans leur territoire, se conformant ainsi à la formule de la paix d'Augsbourg de 1555, cuius regio eius religio. Et pour décider en souverain politique quel type de croyance qu'on devait avoir dans leur territoire, les princes s'appuyaient sur leurs théologiens qui enseignaient fréquemment dans des nouvelles universités régionales. Et seuls les experts en interprétation du texte pouvaient leur garantir le droit de régner sur les citoyens. Par ailleurs, Luther occupa à partir de 1913 la chaire d'interprétation de textes à l'université de Wittenberg, une université toute récente fondée en 1502. Et le droit de régner sur les citoyens qui, en tant qu'individus à proximité immédiate de Dieu, et que récipiendaires alphabétisés des Saintes Écritures, ils avaient eux-mêmes une prétention à une sorte de souveraineté. Dans le cas de l'Angleterre, ce furent les membres de la noblesse rurale, la gentry, c'est-à-dire les 5000 familles qui pouvaient se référer à leurs anciens droits et libertés anglais, dans lesquels se condensaient les énergies révolutionnaires de leur ordre. Ils avaient renversé et exécuté le roi en 1640, avec ce résultat ironique qu'ils se retrouvèrent ensuite sous la dictature puritaine d'Oliver Cromwell, jusqu'à ce qu'ils puissent célébrer, vers la fin du siècle, sous le titre paradoxal de Glorious Revolution, la restauration d'une monarchie domestiquée. Et dans sa tonalité anglaise, le mot libéral est difficilement séparable des connotations liées à la forme de vie de la noblesse rurale, c'est-à-dire de la gentry. Il resta également marqué par l'imprégnation libérale le projet de vie du chef d'entreprise britannique qui, en tant que capitaliste, fit 5 millions de livres de bénéfices pour en donner 400 en tant que gentleman chrétien. Et pour ce qui concernait la France, ce sont des parties numériquement pas très significatives de la bourgeoisie cultivée qui est la cultivée et alphabétisée qui, sous l'influence des idées de Voltaire, Montesquieu et Rousseau, se lancèrent en 1789 dans l'entreprise téméraire de l'exacerbation jacobine et accomplirent avec l'exécution du roi en janvier 1793, un pas irréversible en direction des conceptions républicaines de l'État. Et les élites bourgeoises qui donnèrent son impulsion à la Révolution pourraient n'avoir guère dépassé par leur nombre celui des membres du premier État, le clergé, et du deuxième État, la noblesse, qui représentaient ensemble quelques 250 000 têtes. On peut supposer qu'aux élections au suffrage universel, les Jacobins n'auraient rassemblé en 1793 qu'à peine plus de 5% de la population. Et de la révolution en France sont issus, entre maintes autres effets, les caractères quasi immortels du rentier, de l'aventurier et du truand populaire, ce dernier opérant à la fin du Xe siècle une mutation pour devenir l'intellectuel. Et la caractéristique globale de chacune des trois révolutions, c'est d'un pôle fortement affirmé de politique religieuse. Le rapport des États avec la tradition chrétienne y a dans chaque cas redéfini d'une manière spécifique. De la réforme allemande est né le concept des confessions liées aux seigneuries régionales. De la révolution anglaise et son prélude avec Henri VIII a surgi l'église d'État paracatholique ou anglicane qui eut un certain temps du mal à garder sous contrôle le culte zélote anglo-israélite des puritains. Les radicaux au sein de ce mouvement s'était rigidifié jusqu'à vouloir reconnaître en l'île anglaise la nouvelle Jérusalem. Mais après avoir compris juste à temps que l'Angleterre de la gentry, sûre d'elle-même, n'offrait pas un humus favorable au projet biblique, ils se déportèrent sur la côte est de l'Amérique, pensant être des pèlerins en route vers une autre terre sainte pour fonder la meilleure Sion sur les collines du Nouveau Monde. Et pour ce qui concerne la Révolution des Français, elle eut pour conséquence la fin du pouvoir de l'Église catholique et la brusque expropriation de ses biens. Sous Napoléon, elle fut rétrogradée au rang d'une partenaire du Concordat, que l'on toléra comme une puissance étrangère jusqu'à ce qu'elle soit ravalée en 1905, sous le coup de la loi sur la laïcité, au rôle de simple badaud de la République séculière. Mais pour ce qui concerne le rôle qu'ils jouèrent pour l'humanité, ces événements s'exprimèrent dans les conséquences à long terme au niveau de la culture et de l'éducation humaine. Concernant l'Allemagne, Rosenstock-Huessy mit en relief trois phénomènes qui marquèrent de leur empreinte l'élément national. Une fonction publique caractérisée par sa piété envers l'État, ce qui suscita encore l'admiration, même la jalousie de Lénine. Les universités avec leur culte séculier de la chaire d'enseignement et la musique qui, stimulée par les chorales de Luther, acquit une portée mondiale par le biais de Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Wagner et Schönberg. Et il est à peine nécessaire de préciser que le classicisme de Weimar et la philosophie de l'idéalisme allemand étaient des protestantismes jouant sur un autre registre. Le droit jurisprudentiel, avec son conservatisme agile, marqua le way of life britannique. La gentry post-révolutionnaire intériorisa le principe du droit à la résistance, à la répression princière, dans une mesure telle que la fiction de l'intégration du monarque au sein de la chambre basse, sous l'intitulé du King in Parliament, apparut comme l'ordre naturel des choses. Mais c'est avant tout la figure du gentleman qui porta au fond baptismaux, un caractère culturel britannique mondain. Et l'idéal de la gentry, l'accès flexible à des positions de supériorité acquises et décontractées. En anglais, the easy conscience of effortless superiority se manifesta en lui sous la forme de l'understatement méthodique et de la retenue stoïque. Celui qui croyait acquérir ce genre de choses facilement devait recevoir la leçon d'un connaisseur. It takes three generations to make a gentleman. Un homme de ce style se laisserait, le cas échéant, impressionner par les jockeys et les capitaines, mais en aucun cas par les prêtres et les professeurs. Et la lecture des livres n'était pas interdite au majordome, mais le gentleman, pour sa part, restait à distance de tout ce qui paraissait intellectuel et bookish. Mais après la transposition dans la figure du sportif, la noblesse discrète du fair play devint un élément populaire d'une vague éthique du monde. Pour citer encore une fois Hans King. Mais quant aux conséquences mondiales de la Révolution française, elles sont encore dans toutes les bouches. Le pitoyable effondrement du communisme en 1990 a toutefois causé des sévères dommages à son autorité. Quand on avait des imitateurs du type des soviétiques, on n'avait plus besoin de critiques de sa propre cause. L'entretien traditionnel de l'amitié franco-russe est devenu une source de gêne que seul un petit nombre d'acteurs prennent encore sur eux. Par exemple, le fameux... c'est pas le neveu, petit-fils du général de Gaulle, Paul de Gaulle, qui a l'habitude de fréquenter Moscou. Mais c'est un nom intellectuel. Mais la situation en France est beaucoup plus grave. Mais Il y a pas mal d'intellectuels qui aimeraient voyager avec Paul de Gaulle et profiter de la gloire qu'on lui offre dans des réceptions de Saint-Pétersbourg et Moscou. Le cours des choses, d'ailleurs, montra que la naturalisation des Juifs en France, souvent mise en valeur comme le joyau de l'universalisme gaulois, ne pouvait réussir qu'à moitié. C'est en tant qu'enfant d'Adam et Adam, et non en tant qu'imperturbable descendant d'Abraham, qu'on leur avait accordé l'égalité des droits civiques. Et dès que l'élément abrahamique s'avéra en eux plus persistant que prévu, un malaise anti-judaïque s'éveilla aussi parmi les partisans français de la nature humaine universelle. Et le diagnostic de Rostock-Fussy dans cette affaire est très clair. Les Français ne supportèrent pas qu'une nation soit plus messianique que la leur. Bien. Et il est impossible de passer sous silence que l'exubérance de l'universalisme français subit de bonne heure des revers significatifs, et pas uniquement parce que le calendrier révolutionnaire, avec sa semaine de 10 jours conçu rationnellement, se révéla être un échec. Ce qui met en détresse l'élément messianique du message de liberté à la française, ce fut avant tout le raz-de-marée des nationalismes déclenchés par la révolution bourgeoise. Dans son pays d'origine, ils se présentèrent avec une tonalité patriotique, et partout où les nations européennes avaient vu le déploiement des armées napoléoniennes, ils exprimèrent en revanche sous une forme de déclinaison francophobe et antilibéraux. Sur la séparation du libéralisme du nationalisme, c'était un fait imposé par les troupes françaises à toutes les nations européennes où l'armée française avait fait son apparition. Pensez à l'Italie, pensez à l'Espagne, pensez à l'Allemagne, etc. Partout où le côté émancipateur du nationalisme s'est séparé du libéralisme, il y a eu des courants pré-fascistes. Même un homme comme Clémenceau fut emporté par la vague du patriotisme gaulois lorsqu'il déclara que « humanité » était un beau mot, mais que France l'était encore plus. Mais ce qu'ont en commun tous ces épisodes renversants pour ce qui concerne l'individu, c'est ce qu'on peut sans crainte qualifier de promotion existentielle de la nature humaine. En tant que telle, elle affecte fondamentalement l'être dans le monde des membres du genre sapiens. Elle débouche sur une suppression en profondeur de l'esclavage, qui devance de loin tous les abolitionnismes récents. À ce jour, elle n'a réellement été mise en œuvre ni en Asie, ni dans les nations du Sud global, ce qui explique qu'on y fasse volontiers valoir la pluralité des civilisations contre le pathos européen de la dignité universelle de l'homme. En créant ce que Rosenstock-Huessy appelle « the laity sanctified », la laïcité sanctifiée, la réforme allemande a fait de chaque être humain un être doté de compétences sacerdotales. Depuis, chaque individu est immédiatement relié à l'infini. Et la Révolution anglaise a fait de chaque gentleman un père du roi. Tandis que la Révolution française transformait chaque être humain talentueux et de bonne volonté en membre d'une nouvelle noblesse méritocratique portant des traits de popularité adamique. les titres universalisés Herr, Sir, Monsieur, Madame, Madame, devaient faire comprendre que le sens des mouvements révolutionnaires n'est pas au bout du compte l'amélioration des prestations sociales, mais un anoblissement universel. En revanche, les cultures modernes de masse perçues dans ce contexte suivent toujours les motifs régressifs dès lors qu'elles s'adressent aux gens dans leur trivialité pré-réformatrice et le font surtout avec une vulgarité qui ne connaît aucune obligation de s'engager pour le bien commun et ne sait rien des chances de vie des petits-enfants. Les autocraties, les dictatures et les populismes se fondent toujours sur l'hypothèse qu'en matière politique, on ne peut pas se fier qu'aux pulsions basses, à la cupidité, à la soif de la vengeance et à la peur. Et en tant qu'anthropologue des révolutions européennes, Rosenstock-Huessy se reconnaît dans le point de vue selon lequel l'être humain doit, pour s'épanouir, se déraciner de sa simple origine. L'homme, croit-il, doit en quelque sorte être rempoté, repiqué du présent vers des situations futures, parce qu'il dépérit facilement dans son humus d'origine quand la terre a été piétinée trop. Rosenstock-Huessy élève ainsi une objection élémentaire contre toute forme de nativisme qui reste uniquement là où le hasard l'a fait venir au monde et qui ne se comporte jamais qu'en enfant de son temps sans même entendre un appel venu de devant de l'oméga de l'histoire succombe à l'étroitesse des démons locaux. Mais au déracinement de l'origine usée doit toujours correspondre une prestation de serment à une nouvelle source légitime d'enthousiasme afin que les individus dans l'espace post-révolutionnaire ne soient pas victimes de désorientation. Ils succombent trop facilement à l'ignorance de ce que l'on doit après dans le marasme qui suit les périodes de combat. On pourrait du reste en dire autant des Européens actuels qui ne savent pas si sont vraiment, vraiment les meilleurs anges de notre nature qui se charge de l'avenir. Vous comprenez, mesdames, messieurs, que le dernier mot est une citation de l'auteur américain, psychologue américain Steven Pinker, qui publiait un livre sous le titre « The Better Angel of Our Nature », qui veille à ce que les mauvais anges ne l'emportent pas. Vous avez réussi de soutenir ce discours un peu trop long, mais vous avez fait connaissance, la connaissance d'un auteur qui mérite un peu d'attention. Merci de votre attention aujourd'hui.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.